La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission La parole des contes. Cette fois-ci, je nous emmène dans les temps anciens, en 1620, et de l'autre côté des Alpes, dans l'Italie du Sud, à Naples, avec Giambattista Basile, le conte des contes. Alors, le conte des contes, c'est donc un conte qui fait un conte cadre et dans lequel il va y avoir 50 contes qui vont se décliner à travers 10 conteuses. Et au départ, ça commence par un roi qui a une fille unique, qui ne rit jamais, ce qui désole son père, et qui va inviter mille et un clowns, jongleurs, pour la dérider un tantinet. Il échoue tant et si bien qu'il a l'idée de mettre sur la place, juste en bas de la fenêtre de sa fille, qui souvent passe son temps à regarder par la fenêtre, donc de construire en bas de la fenêtre de sa fille sur la place, une fontaine d'huile, en espérant que les personnes qui passeront par là feront tout un tas de cabrioles, tomberont les uns sur les autres et que ça fera enfin rire sa fille. Et ça réussit pas du premier coup, mais il y a une petite vieille très pauvre qui vient sur la place avec une bouteille pour pouvoir récupérer de l'huile pour sa cuisine. Elle a à peine fini de remplir sa bouteille qu'un chenapan lance un caillou sur la bouteille et la bouteille casse. Et alors là, ça déclenche des litanies d'insultes que Hervé aurait dû prendre 10 notes pour les mettre dans la bouche du capitaine Haddock. Et la vieille traite le gamin de tous les noms. Le gamin n'est pas content et il répond lui aussi une liste très longue d'insultes plus chargées les unes que les autres. Et alors, comme réponse, elle va, je crois, si je comprends ce langage, elle va soulever ses jupes pour montrer son sexe. Et alors, c'est ça, cette image-là qui va déclencher le rire de la jeune Zosa. Et enfin, c'est ce que j'ai pensé. Parce que, donc, lui, il l'insulte en lui disant « Vas-tu fermer les vannes, vieille sorcière, aïeule de Belzébuth, sangsue, croqueuse de marmots, chialeuse, foireuse, face de péteuse !» Et donc, la vieille va réagir. Elle se met d'abord en colère. « Telle que la boussole de son flegme s'emballa, les freins de sa patience lâchèrent, et levant le rideau de son petit théâtre, elle découvrit la scène forestière où le berger déclamait « Éveillez-vous au son des cornes à bouquin ». Donc, c'est ça qui m'a fait supposer qu'elle soulève ses jupes et montre son sexe. Mais c'est peut-être autre chose que j'ai mal compris. Enfin, toujours est-il, c'est que c'est cette scène-là qui va déclencher l'hilarité de Zosa. À ce moment-là, la vieille, voyant qu'elle est l'objet de rire de la fille du roi, elle est indignée et elle va lancer une malédiction à Zosa, à savoir qu'elle ne pourra trouver la paix que lorsqu'elle aura enfin rencontré un mari en le prince de Ronde Prairie. Et alors là, à ce moment-là, commence une longue, longue histoire. Zosa à la recherche du prince de Ronde Prairie. Et ça va être très long. Et elle va finir quand même par le trouver. Et après, pourquoi il s'agit de... je ne sais plus. Enfin, il est à un moment donné, il est question que 10 conteuses viennent dans une grande salle et chacune va dire 5 contes et sur 10 journées, ce qui va faire 50 contes. Et alors, ce que je nous propose, c'est la deuxième journée et le conte s'intitule « Fleur de Persil ». Vous le connaissez vraisemblablement avec « Réponse » qui a été un film de Walt Disney. Mais là, avec Basile, vous êtes assuré d'une prose assez verte, assez fleurie. J'ai choisi cette musique parce qu'elle va nous emmener dans l'univers napolitain où était Basile dans les 1620. Et donc ce conte, c'est la deuxième journée. Et il commence ainsi. Il était une fois une femme appelée Pascadozia. Elle était grosse, c'est-à-dire enceinte. Un jour, le hasard la fit se pencher à une fenêtre qui donnait sur le jardin d'une ogresse. Et de là, elle avisa une belle bordure de persil. Elle en eut si grande envie qu'elle fut prise de faiblesse. Aussi, quand elle fut assurée que l'ogresse était sortie, n'y résistant plus, elle en cueillit une pleine poignée. Mais à son retour, l'ogresse, voulant se mijoter une sauce, s'aperçut qu'on avait fauché son persil. Et s'exclama « Que je me rompe l'os du cou si je n'attrape pas ce manche crochu pour lui apprendre et lui faire passer l'envie d'écumer les gamelles d'autrui au lieu de manger dans son écuelle. » Cependant, la pauvre femme continuait à descendre dans le potager tant et si bien qu'un beau matin, elle fut surprise par l'ogresse qui, fort enragée et fort venimeuse, lui dit « Ah, je te cueille enfin, vilaine voleuse! Est-ce toi qui payes le loyer de ce potager? Que tu viennes ainsi, avec si peu de discrétion, rapiner mes herbes? Par ma foi, je ne vais pas t'envoyer jusqu'à Rome pour faire pénitence. » La malheureuse Pascadozia s'excusa en disant que le démon l'avait incité à commettre ce péché, non par gourmandise ou par goinfrerie, mais parce qu'elle était enceinte et qu'elle avait peur que le visage de son enfant ne fût parsemé de taches persillées. Et elle ajouta que l'ogresse devait au contraire lui être reconnaissante, car elle ne lui avait pas fait venir quelque mauvais orgelet. Jeune épousée veut autre chose que des mots, répliqua l'ogresse. Tu ne me ferreras pas avec tes caquetages. Tu vas forger ton dernier ouvrage si tu ne me promets pas de me livrer la créature que tu enfanteras, mâle ou femelle. La pauvre Pascadozia, pour échapper à ce danger imminent, jura dès demain. Et ainsi, l'ogresse lui laissa sa liberté. Et voilà que Pascadozia accoucha d'une fillette, si belle qu'on aurait dit un bijou. Comme elle avait sur la poitrine une belle touffe de l'herbette en question, on l'appela Fleur de Persil. Elle grandissait chaque jour, et quand elle eut 7 ans, elle commença à aller chez le maître d'école. Et chaque fois que sur sa route elle rencontrait l'ogresse, celle-ci lui disait « Dis à ta mère de se rappeler de sa promesse !» Et elle répéta si souvent cette rengaine qu'à la fin, la pauvre mère, excédée d'entendre ce refrain, dit à sa fille « Eh ben, si tu rencontres encore la vieille et qu'elle t'interroge sur cette maudite promesse, réponds-lui donc « Eh ben, prends-la !» Fleur de Persil, qui ne savait pas du tout de quoi il retournait, rencontra l'ogresse et comme la vieille lui serinait la phrase habituelle, elle répondit innocemment comme sa maman lui avait dit. Alors, l'ogresse la saisit par les cheveux et l'emporta avec elle dans un bois, où les chevaux du soleil n'entraient jamais pour ne pas payer le loyer de ses pâturages de l'ombre. Puis elle l'enferma dans une tour qu'elle fit surgir, comme ça, par enchantement, sans porte, sans escalier, avec une unique fenêtre minuscule où elle montait et descendait en glissant le long des cheveux de fleurs de persil. Elle les avait fort abondants. On comme fut le mousse d'un navire le long des haubans du grand mât. Or, un jour que l'ogresse s'était éloignée de la tour, Fleur de persil passa sa tête par l'ouverture et répandit ses tresses au soleil. Le fils du prince vint à passer, qui, avisant ses deux drapeaux dorés qui incitaient les âmes à s'enrôler dans les armées d'amour, et au milieu de ses ondes précieuses, un visage de sirène qui ensorcelait les cœurs, s'enticha follement de cet amoncellement de beauté. Et après lui avoir envoyé tout un grimoire de soupirs, il décréta que la place devait se rendre à sa courtoisie. Les négociations furent si bien menées que le prince obtint quelques signes de tête en échange de ses baisers volants, des clignements d'yeux venus du haut en échange de ses révérences venues d'en bas, des remerciements d'en haut en échange de ses offres du bas, des espoirs en échange de ses promesses et de douces paroles en échange de ses salamalecs. Continua ainsi plusieurs jours, et ils devinrent si familiers qu'ils finirent par tomber d'accord sur la nécessité de se rencontrer. La chose devait se produire la nuit, quand la lune joue au furet avec les étoiles. Fleur de persil donnerait un somnifère à l'ogresse, et elle hisserait le prince au moyen de sa chevelure. Donc, ils établirent leur plan, et l'heure de la rencontre arriva. Le prince se présenta devant la tour, siffla pour que Fleur de persil fît tomber ses tresses, et les ayant saisies à deux mains, il lança « Tire !» Elle le souleva jusqu'à la fenêtre, d'où il s'engouffra dans la chambre pour déguster un peu de persil à la sauce amour. Puis, avant que le soleil n'enseignât à ses chevaux à sauter à travers le cercle du zodiaque, il descendit par la même échelle dorée pour vaquer à ses occupations. La chose se renouvela ainsi plusieurs fois, si bien qu'une commère de l'ogresse s'en aperçut, et se mêlant de ce qui ne la regardait pas, elle voulut fouiner dans la merde des autres. Elle dit à l'ogresse de faire attention, car Fleur de persil flirtait avec un certain jeune homme, et elle ajouta qu'elle se doutait bien que les choses iraient encore plus loin si l'on considérait le trafic et le remue-ménage qu'il faisait. En outre, elle craignait, si un enlèvement était projeté, que l'ogresse et elle-même ne fussent délogées de la maison avant que le mois de mai ait mis ses fleurs. L'ogresse remercia sa commère et dit qu'elle aurait soin d'interdire toute escapade à fleurs de persil, encore qu'il fût douteux que sa prisonnière pût s'enfuir, car elle lui avait jeté ce sort. Si elle n'avait pas dans la main trois glands qui étaient cachés dans une poutre de la cuisine, tenter de s'échapper était pour elle peine perdue. Cependant, tandis qu'elle caquetait ainsi, Fleur de persil, dont les oreilles étaient en éveil car elle se méfiait un peu de la commère, entendit tout ce bavardage. Aussi, quand la nuit eut étendu ses habits noirs pour les protéger des mites, dès que le prince arriva, comme les autres soirs, elle le fit monter sur les poutres, il trouva les glands et elle savait bien comment les utiliser pour combattre les pouvoirs de l'ogresse. Puis, ils firent une échelle de corde, alors que bon, hein, vous savez là, chers auditeurs, l'ogresse, elle est toujours à côté d'eux, là. Elle ronfle à cause d'un somnifère, mais elle est là. Donc, ils prennent leur temps pour constituer une échelle de corde. Ils descendent tous les deux, prennent le large à toutes jambes en direction de la ville. Mais la commère les vit comme ils descendaient. Et elle commença à hurler, appeler l'ogresse. Et ses hurlements furent si bruyants que la geôlière, malgré le somnifère, finit par se réveiller. Lorsqu'elle sut que Fleur de persil s'était enfuie, elle descendit par l'échelle qui était encore attachée à la fenêtre et commença à galoper derrière les amoureux. Et quand les amoureux virent arriver l'ogresse qui arrivait plus rapide qu'un cheval emballé, ils pensèrent qu'ils étaient perdus. Mais Fleur de persil se souvint des trois glands. Elle en jeta aussitôt un à terre. Aussitôt en surgit à l'instant un terrible mâtin. Aïe ma mère, la gueule grande ouverte qui en aboyant courut sus à l'ogresse pour n'en faire qu'une bouchée. Mais cette ogresse était plus maligne que le diable cornu. Elle plongea la main dans sa poche et en tira une miche de pain qu'elle lança au chien, lequel aussitôt baissa la queue et ravala sa fureur. Comme l'ogresse avait repris à courir derrière les fuyards et qu'elle se rapprochait, Fleur de persil jeta le deuxième gland. Et voici qu'en surgit un lion féroce qui, frappant la terre de sa queue et agitant sa crinière, la gueule large de deux empans, était tout prêt à ingurgiter la méchante. Alors celle-ci revint sur ses pas. Elle écorcha un âne qui broutait dans un pré revêtit sa peau et courut vers le lion qui se laissa abuser. Et il eut tellement peur qu'il court encore. Ayant franchi ce deuxième obstacle, l'ogresse se remit à poursuivre les deux pauvres enfants. Eux, entendant le martèlement de sa course et voyant un gros nuage de poussière qui s'élevait jusqu'au ciel, en déduisirent que leur ennemi arrivait pour la troisième fois. Mais l'ogresse, craignant que le lion ne la poursuive encore, n'avait pas ôté sa peau d'âne, et quand Fleur de Persil jeta le troisième gland, il en sortit un loup qui, avant que la vieille ait eu le temps de prendre un nouveau parti, l'engloutit sans autre forme de procès. Alors les amoureux, enfin sortis d'ennui, s'en allèrent piano piano vers le royaume du jeune homme où, avec la permission de son noble père, le prince prit Fleur de Persil pour épouse et ils comprirent après toutes ces calamités et tous ces tourments que une heure à bon port efface 100 ans de tempête.
Janjidilu, temar tuju chumiyo, kusya boludu diyo, eki chami mafa. Urra yugi fajiva, parivanu denori, chuchu betru distu gori, komu di bozama. Quando raggiava faceva a giuccio bello di stupori come di bozza mai.
Chères auditrices et chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.